우리 하나님의 말씀은 요한복음
La parole de Dieu se trouve dans Jean chapitre 6 verset 52 à 59. La parole de Dieu, Jean chapitre 6 verset 52 à 59, lisons un tour de rôle. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient: comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui voit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel, il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Nous allons prier pour pouvoir écouter la parole de Dieu qui nous sera donnée par Dieu. Il faut que nous soyons prêts à écouter la voix spirituelle. Prions d'abord pour le prédicateur et prions aussi pour nos âmes, pour que nous ayons une véritable inspiration qui nous permet d'obtenir la parole de Dieu. Prions tous ensemble. Dieu le Père, à ce jour saint, nous sommes unis pour écouter ta parole. Lorsque ton prédicateur prêche ta parole, qu'elle puisse recevoir une parole qui vient des cieux, qu'il puisse supporter ta grande parole avec inspiration. Et que tous ceux qui assistent à ce culte soient conduits par le Saint-Esprit et reçoivent ta parole, soutiens leur cœur et leurs âmes. Je prie au nom de Jésus. L'homme du Seigneur. Nous allons lire le résumé du sermon d'aujourd'hui. La volonté de Dieu, c'est manifester son amour envers l'humanité, ainsi que le tableau de sa volonté qui a été accompli dans son amour. Le Seigneur ne sauve pas l'humanité sans se sacrifier. Sans sortir vainqueur, il ne s'assied pas au trône de gloire. Sans sommet, il ne ramasse pas. C'est pourquoi il faut boire le sang de Jésus-Christ. Pour faire l'expérience de lui, il faut manger sa chair pour connaître son amour. Il faut accueillir l'esprit de Christ pour connaître la vérité. Notre foi, c'est le cadeau de son sacrifice. La grâce que nous avons reçue nous a été donnée selon la volonté de Dieu. Lorsque nous nous sacrifions comme Jésus, nous pouvons devenir vrais collaborateurs de Jésus. Ce n'est que lorsque nous avons vaincu le monde que nous pouvons recevoir les choses spirituelles. Lorsque nous semons les choses spirituelles, nous pouvons récolté les choses charnelles. Celui qui a été sauvé sait répondre positivement à son appel. Il faut absolument obtenir le salut, mais il faut notre action aussi. La volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est accorder son amour à l'humanité. En même temps, il nous accorde son amour. Il veut que les gens soient au courant de cet amour. La volonté de Dieu est en train de s'accomplir selon sa voix. Ses souhaits. Nous sommes les hommes de Jésus-Christ et nous connaissons très bien sa volonté et c'est ce que nous devons connaître en fait. Si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, c'est grave parce que imaginons que nous ne connaissons pas notre nationalité lorsque nous sommes à l'étranger. Si nous ne connaissons pas notre nationalité, nous serons dans une difficulté. Parce que les gens vont nous demander d'où venez-vous, quelle est votre nationalité. C'est une question qu'on se pose naturellement si nous sommes à l'étranger. Parce que si nous sommes à l'étranger, ceux qui sont à l'étranger, c'est-à-dire les étrangers, voient la différence entre eux et nous. Donc, ils le demandent notre nationalité parce que nous sommes différents d'eux. Donc, voilà, si on me demande quelle est votre nationalité, je dis oui, je viens de la Corée du Sud. Lorsque je réponds comme ça, je sens une certaine responsabilité concernant mes réponses. Parce que je cite le mot Corée du Sud. Il faut que nous ayons une responsabilité en tant que Coréens. Même si nous sommes à l'étranger, nous pensons à notre propre pays parce que nous sommes Coréens. Nous gardons toujours notre tradition, nos valeurs coréennes. Il faut que nous soyons capables de les expliquer aux étrangers. Pour cela, il faut que nous les connaissions et il faut agir d'une manière convenable en tant que Coréen. Si quelqu'un nous demande quelle est la volonté de Dieu, si on nous pose cette question, puisque nous sommes des chrétiens, il faut que nous connaissions la réponse à cette question. Qu'est-ce que c'est la nature des chrétiens? Qu'est-ce que c'est les attributs des chrétiens? Qu'est-ce que c'est la tradition des chrétiens? Il faut que nous soyons harmonisés avec la volonté de Dieu et c'est ce que nous devons manifester aux autres. Si nous ne connaissons pas notre nationalité, nous pouvons être méprisés. C'est une honte, mais ce n'est pas très très grave. Ce qui est plus grave, c'est de ne pas connaître la volonté de Dieu. Lorsque j'étais jeune, lorsque j'avais environ 4 ans ou 5 ans, ma mère m'a dit, c'était en été, c'est pourquoi elle m'a dit, ah, tu as été beaucoup bronzé, il ne faut pas que tu sois trop exposé au soleil. Alors j'ai obéi à sa parole. Et j'étais dans l'ombre, mais ce qui est étrange, c'était que j'ai été encore bronzée. Il m'a dit aussi, il m'a dit encore une fois, il ne faut pas que tu sois trop exposé au soleil. Et il m'a demandé de marcher dans l'ombre. Plus j'obéis, plus je me bronze. C'était bizarre. J'avais obéi à sa parole, mais pourquoi j'ai été bronzé, même si je marchais dans l'ombre, pour éviter le soleil? Parce que j'étais tout petit, j'avais pensé que c'était l'ombre, mais ce n'était pas vraiment l'ombre où j'ai marché, parce qu'il y a deux parties, la partie ensoleillée et la partie obscure. Mais je pensais que si je marche dans la partie ensoleillée, je pensais que je pourrais ne pas être bronzé. Donc, je me suis trompée. De la même manière, il faut que nous connaissions la volonté de Dieu. Et si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous pouvons nous comporter d'une manière bizarre. Et c'est très dangereux. Celui qui a la foi doit vivre selon la volonté de Dieu. Mais ce ne sont pas tous les chrétiens qui peuvent, agissent convenablement. Tout le monde veut être béni et recevoir la grâce, mais on ne veut pas faire ce qui est embêtant. Nous voulons être beaucoup bénis, c'est pourquoi nous choisissons une église qui nous donne beaucoup de bénédictions. On peut mener la vie de la foi confortablement au niveau physique, mais ce n'est pas au niveau de l'âme. Il ne faut pas traiter à la légère notre âme, parce que c'est dangereux. Beaucoup de personnes veulent vivre selon la volonté du Seigneur. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Beaucoup pensent qu'ils doivent se sacrifier pour bien mener la vie de la foi. Il faut faire beaucoup de choses pour Dieu et il faut abandonner beaucoup de choses. Il faut nous sacrifier. Si nous ne comprenons pas bien cette partie-là, nous pouvons nous sentir très lourds. Parce que oui, je dois donner à Dieu beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Alors c'est pourquoi on se sent très lourd. On se sent très lourd. Et puis ensuite, on ne fait pas grand-chose pour Dieu. Il ne faut pas penser à tort que le Seigneur nous opprime. Jésus n'est pas le dictateur qui nous opprime. Le Seigneur Jésus n'a pas un cœur étroit. Il ne faut pas traiter Jésus d'une manière insolente. Parce que si nous ne connaissons pas bien Jésus, nous pouvons nous comporter d'une manière non convenable. Dans les sectes, il y a des dictateurs. Mais en fait, notre Seigneur Jésus n'est pas un dictateur. Il est toujours dans l'abondance. Mais l'homme n'est pas là dans l'abondance. C'est pourquoi nous sommes toujours poursuivis par des choses. Et nous sommes toujours dans une grande urgence. Et par exemple, on a besoin de l'argent. Et Il faut montrer le témoignage de notre foi à Dieu. Quel est le témoignage de notre foi? Nous sommes hommes du Seigneur. Il faut que nous accomplissions nos charges, nos obligations en tant que chrétiens et en tant qu'Église, en tant que membre de Jésus, en tant qu'homme de Jésus. Nous devons remplir toutes nos obligations. Comme ça, nous devons nous montrer à Dieu. C'est ce que nous devons faire. C'est pour nos âmes et c'est pour la vie éternelle. Nous ne pouvons pas négliger donc notre obligation parce que ce n'est pas la volonté de Dieu et nous ne pouvons rien obtenir si nous négligeons nos obligations. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Il faut que nous la comprenions. Si quelqu'un nous demande quelle est la volonté de Dieu, est-ce que vous êtes prêt à répondre à cette question? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui peuvent répondre à cette question aisément. Parce que la Bible est longue, c'est difficile de la comprendre. On ne sait pas très bien ce qu'est la volonté de Dieu. On ne peut pas bien la saisir lorsqu'on lit la Bible, qui est très longue. Mais il y a un grand tableau de la volonté de Dieu. Si nous connaissons ce tableau-là, nous pourrons expliquer la volonté de Dieu. Bon, par exemple, nous pouvons parler de l'amour de Dieu. Et si vous regardez le Nouveau Testament de la Bible, on parle de la généalogie de Jésus-Christ. Le premier verset du Nouveau Testament. Qu'est-ce que c'est? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est ainsi que il y a l'objectif de l'écriture de la Bible dans la Bible. Quel est le rôle de Jésus-Christ, par exemple? Verset 21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est venu dans ce monde. En fait, Jésus est venu pour sauver l'humanité. Jésus veut nous sauver, nous libérer de notre malheur. C'est ce que Jésus a dit lui-même. Il l'a dit, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé, Jean chapitre 6. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est de ne perdre aucune, de ne perdre aucun de ce qu'il m'a donné, mais de les sauver. Et la volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est? Quiconque croit en son Fils unique soit sauvé. C'est pourquoi, quelle est la conclusion? Quelle est l'œuvre de Jésus-Christ? Jésus veut sauver les gens qui sont morts. Et au dernier jour, l'œuvre de son salut sera achevée. Et c'est ça la volonté de Dieu. En fait, le Christ suit tout simplement Dieu. Dieu tant aimé le monde et qu'il nous a envoyé son Fils unique. Quiconque croit en lui obtiendra la vie éternelle. Il veut nous sauver de la perdition éternelle. Et il ne suffit pas de rester calme. Pour être sauvé, il faut quelque chose à faire de notre part. En fait, qu'est-ce que Jésus a supporté pour nous sauver? Quel était son sacrifice? Jésus lui-même a dit, lorsqu'il était avec ses disciples, qu'est-ce que les gens disent en ce qui concerne le Fils de l'homme? Alors les disciples répondent, les gens disent, tu es Jean-Baptiste, ou bien tu es Élie, ou tu es Jérémie, ou bien tu es l'un des prophètes. C'était la réponse de ses disciples. Et alors, on a cité presque tous les prophètes qui avaient de différentes missions. Alors, Jésus a répondu, « Qu'est-ce que vous dites en ce qui me concerne ?» Alors, puis il a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le Christ signifie le Messie. Alors là, Pierre a enfin répondu que Jésus était le Messie, le Christ, c'est-à-dire le Sauveur. Alors Jésus a dit, « Oui, tu as raison. Simon, je vais bâtir mon église sur ce rocher, sur cette pierre. » Et c'est ainsi qu'il a fait connaître sa décision. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à parler de la mort et de la souffrance qu'il devrait connaître. Pierre a été très surpris par le message de Jésus. Alors Pierre a dit, « Ne meurs pas, Seigneur Jésus, ne le fais pas. » Donc, à cette réponse de Pierre, Jésus a dit, « Tu es satanique, tes pensées sont celles de l'homme, non pas celles de Dieu. » En fait, Pierre ne pouvait pas accepter la mort de Jésus-Christ. C'était vraiment une surprise. Mais en fait, la venue de Jésus-Christ et la mort de Jésus étaient la volonté de Dieu. Alors Jésus est mort à notre place. Il s'est chargé de notre injustice pour que nous soyons amenés à Dieu. Comme il est dit ainsi dans la Bible, Jésus est venu dans ce monde et pour que l'homme ne périsse pas et soit sauvé, Jésus a appliqué sa décision. Qu'est-ce que c'était? C'était mourir. Donc Jésus a parlé de sa mort et puis cette mort a été achevée, assumée par Jésus. Jésus n'est pas un dictateur qui nous exploite, qui nous opprime. C'est loin de cela. Lorsque Jésus a rencontré Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a regardé Jésus et puis il a dit en ce qui concerne Jésus, « Regardez, voici l'agneau de Dieu qui se charge des péchés de l'homme. » Jean-Baptiste a considéré Jésus comme un agneau. C'était une description étrange pour nous, parce que comment peut-on considérer un homme comme agneau? Mais les agneaux sont très familiers à Israël. En fait, on avait sacrifié des agneaux pour en donner à Dieu. Donc Jésus est venu pour nous donner son sang, pour asperger son sang dans le monde. Il est venu de mourir, pour mourir à notre place, pour nous ôter de nos péchés. Jésus nous a été envoyé et il s'est sacrifié. Alors Jésus a accepté la volonté de Dieu. D'une manière active. Et Jésus a fait beaucoup de choses pour nous. Il nous a manifesté sa générosité. Il est mort donc. Et en fait, sa mort n'était pas quelque chose d'imprévu, inattendu. Il est mort sur la croix. Et jusqu'à ce qu'il meure sur la croix, il y a eu beaucoup de choses qui devaient être accomplies avant sa mort. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'étapes, il y a eu un processus compliqué avant la mort de Jésus-Christ. D'abord, Jésus devait venir dans ce monde. Il est Dieu, il est grand, mais il devait devenir un homme comme nous. Il devait s'abaisser d'une manière considérable. Il devait avoir une patience, il devait avoir un sens de responsabilité afin d'assumer son sacrifice. En fait, pour que nous devenions ces hommes, il s'est lutté contre lui-même et il a lutté contre tout, avec responsabilité, avec patience. Il est né dans une crèche. Quelle quelle comment surprise, parce qu'il est né dans une crèche et puis il n'avait rien d'enviable. Son apparence était misérable. Il a été donc méprisé dans ce monde et puis il a eu beaucoup de maladies, c'est pourquoi il était très malade. Et puis, il n'était pas comme les autres. Et puis, en plus, il était charpentier. C'était une profession minable. Et en plus, il est mort comme criminel dans ce monde. Il était dans Isaïe, il a subi beaucoup d'insultes, mais il est resté silencieux. Comme un agneau qui attend la mort. Donc finalement, il a abandonné sa vie pour nous. Il a été considéré comme un criminel dans ce monde. Mais en réalité, il s'est chargé sur ses épaules des péchés des hommes. Et puis, il a prié pour les criminels qui étaient à son côté. C'est ce qui était dans Isaïe. Et puis, dans Isaïe, on poursuit Jésus verra sa semence. Qu'est-ce que c'est la semence de Jésus? C'est l'Église. Cette Église va subsister longtemps. Alors, Dieu a été glorifié parce que sa volonté a été glorifiée par son Fils. Donc, le prophète Ésaïe a parlé beaucoup du Messie d'une manière très claire et exacte. Quel est l'objectif du salut de l'humanité? Qui pourra imaginer, en fait? L'idée de Dieu. Mais Dieu a eu une volonté et cette volonté a été accomplie parce que Jésus a assumé cette volonté de Dieu. Il n'y avait pas d'autre moyen que moyen d'accomplir la volonté de Dieu sans la mort de Jésus-Christ. La méthode que Dieu a choisie n'était pas une méthode facile. Cette méthode n'était pas un moyen facile à appliquer. Jésus est venu dans ce monde et puis il a été exécuté dans ce monde en tant que criminel. Et Dieu a laissé son fils mourir dans ce monde. Ce n'était pas une solution facile pour Dieu, mais Dieu a choisi cette solution difficile pour nous rendre heureux. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu pour nous pour servir, pour être servi, mais le Fils de l'homme est venu pour servir, non pas pour être servi. Il est venu pour nous donner sa vie. Jésus-Christ pouvait arrêter sa vie misérable. Jésus pouvait ne pas accomplir le projet de Dieu. Il pouvait éviter ce projet, mais il a choisi d'accomplir la volonté de Dieu en supportant une grande souffrance et en faisant beaucoup de sacrifices. En ce faisant, il a montré son amour vers l'humanité. Et il a protégé ses hommes en leur donnant la grâce. C'est ainsi que Jésus a été élevé dans ce monde et il s'est assis sur le trône céleste. Et avant d'être glorifié, Jésus a fait beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Il a connu beaucoup de guerres. Et qu'est-ce qu'il a obtenu? Vous et moi, il est sorti vainqueur de nombreuses luttes. Ensuite, il les a obtenues. Et c'est pourquoi nous sommes devenus ces hommes. Jésus a servi les hommes et les hommes sont devenus ses possessions. Nous sommes devenus ses hommes. Il faut que nous comprenions bien un point, puisque nous avons connu son sacrifice. Il est le maître de toutes choses. Hein? Il est le maître du royaume des cieux. Mais puisque nous connaissons ce fait, nous sommes devenus ses hommes. Non, puisque nous avons connu son sacrifice, nous sommes devenus ses hommes. Qu'est-ce que c'est notre foi? C'est répondre à son sacrifice. Et c'est le cadeau qui nous a été donné suite à sa mort. Jésus a versé son sang et il est mort sur la croix et nous avons donc nous sommes devenus ses possessions. Il est notre Seigneur. Notre Seigneur nous dit et mangez de ma chair et vivez de mon sang. C'est ce qu'il ordonne de faire. Et c'est le texte que nous avons lu. Si nous ne mangeons pas la chair du Fils de l'homme, si nous ne vivons pas le sang du Fils de l'homme, nous n'aurons pas la vie. Mangez de ma chair, vivez de mon sang pour que vous ayez la vie éternelle. Au dernier jour, je vais vous ressusciter. Si vous me mangez, si vous me vivez, je serai en vous et vous serez en moi. Le Dieu vivant m'a envoyé, alors je vis. La chair, le sang de Jésus, c'est le corps de Jésus. Si nous en mangeons, si nous buvons, nous pourrons devenir ces hommes. Et puisqu'on avait mangé sa chair, puisqu'on a vu son sang, on peut vivre par nous-mêmes. Non. Et en fait, nous avons pris son sang et sa chair. Nous devenons ses hommes. C'est pourquoi il nous donne sa vie et il va nous ressusciter au dernier jour. C'est Jésus qui appartient à Dieu le Père. Lorsque Jésus est mort, Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, lorsque nous sommes morts, c'est Jésus qui vient pour nous faire vivre. C'est la promesse qu'il a faite directement à nous. Si nous sommes devenus ces hommes, nous pouvons être ainsi rendus à la vie en buvant son sang et mangeant sa chair. Donc, c'est une expérience spirituelle et substantielle. C'est une réelle expérience que nous faisons. En fait, je suis très fier de vous. En fait, notre Église souffre beaucoup dans ce monde. Nous avons fait beaucoup de choses jusqu'à présent. Nous avons fait beaucoup d'expériences spirituelles. Je voudrais vous encourager. Vous êtes devenu homme de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Si je dois expliquer le sang, la chair de Jésus, ce n'est pas très facile de le faire. Difficile de faire la distinction entre le sang et la chair de Jésus. Et puis, je vous recommande de ne pas le faire. Et vous devez tout simplement comprendre le sang et la chair de Jésus. Je vous donne une explication là-dessus, mais ce n'est pas la peine de vous efforcer trop de faire la distinction entre le sang et la chair de Jésus-Christ. Mais si je vous donne une petite explication sur ce verset, boire le sang de Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est obtenir une capacité de recevoir sa parole de Dieu. En fait, parce que nos péchés sont pardonnés, donc si nous sommes pardonnés de nos péchés, l'Esprit de Jésus-Christ entre en nous.
그렇게 영접해서 알게 된 것이고, 또 중요한 사항은 이것은 지속되는 것이다는 것입니다. 우리 심령 속에 늘 살아있어서 우리의 우리를 그 살아있는 감동 아래에서 항상 이제는 아래에서 준비되어 있도록 되어 있습니다. 이것이 피를 마시는 것이고, 또 주의 살을 먹는 건 무엇이냐면은 이제 주의
manger la chair de Jésus, qu'est-ce que c'est?
먹는 삶이
삶을 갖는 것이에요. C'est vivre en mangeant la parole de Dieu. Cette vie commence lorsqu'on mange sa chair. Et en tant que vivant, on commence à vivre dans ce monde. Donc, puisque nous avons obtenu la grâce de Jésus, la parole de Dieu peut se concrétiser en nous. C'est ainsi que nous pouvons mettre en pratique la parole de Dieu. En conclusion, nous connaissons son sacrifice. Nous avons découvert son sacrifice. Il nous a influencés. Et alors là, nous sommes devenus ses hommes. Alors, et jusqu'à ce que le salut soit achevé, il fallait que il nous parle et il nous élève par sa parole. Donc, il faut que nous comprenions bien son sacrifice. J'espère que vous soyez homme de Jésus-Christ. Il faut que vous soyez bien reconnus comme ces hommes. Nous connaissons son sacrifice. Lorsqu'il y a des difficultés, il faut que nous connaissions notre droit. Nous sommes hommes de Jésus-Christ. Nous avons ce droit. Donc, nous pouvons donc demander son aide. Il y a beaucoup de paroles qui le disent. Il y a beaucoup de versets de la Bible qui le disent. Mais ce qui est étrange, c'est que nous ne sommes pas totalement hommes de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en difficulté, nous allons au Seigneur Jésus. Mais l'important, c'est de rendre grâce à lui lorsque, en temps ordinaire, si nous rendons grâce tout le temps à Dieu, et Dieu s'intéresse à nous. Alors, Jésus nous a dit, si vous me reniez, je vais vous renier devant les anges. Mais si vous me reconnaissez, je vous reconnaîtrai aussi devant les anges. Si nous avons une bonne relation avec Dieu, lorsque nous sommes en difficulté, les anges vont nous aider. Les anges seront prêts à nous aider si nous avons une bonne relation avec Dieu. Mais si nous n'avons pas bonne relation avec Dieu, le Seigneur Jésus ne peut pas nous aider, même s'il y a beaucoup d'anges qui nous entourent. Si Jésus reste silencieux, les anges ne peuvent pas agir. Donc, Jésus nous a dit, même si vous m'appelez, je ne vais pas répondre à votre appel. Jésus nous a ainsi averti. Notre Seigneur. Et va nous aider si nous avons une bonne relation avec lui, si nous lui rendons grâce en temps ordinaire. À ce moment-là, Jésus va autoriser des anges à nous aider. C'est ainsi que Jésus nous regarde attentivement et il veut que nous le connaissions. Et il veut que nous soyons toujours attentifs à ses œuvres. Il veut que nous connaissions son sacrifice. Si nous sommes hommes de Jésus, nous devons manger sa chair et boire son sang. C'est pas la peine d'être influencé par ceux qui ne reconnaissent pas le sang, la chair de Jésus-Christ. Quoi qu'on me dise, il faut vivre avec Jésus et il faut dépendre de sa force. Il faut devenir homme de Jésus et il faut que nous soyons très fiers de ce statut. Si nous sommes vraiment hommes de Jésus, nous devons faire l'expérience de lui sans cesse, aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Il faut porter beaucoup, beaucoup de fruits et il faut prendre beaucoup de peine pour ce faire. Jésus a versé son sang. Même si nous ne pouvons pas mourir comme Jésus-Christ, il faut que nous fassions notre maximum en tant qu'homme de Jésus-Christ. Il y a des choses qu'on veut faire, mais il y a d'autres choses qu'on ne veut pas faire, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas vivre à notre gré parce que nous avons l'Esprit de Jésus-Christ qui nous influence. Donc on ne peut pas se contenter de manger, de boire, de prospérer dans ce monde. Il faut abandonner des choses, un certain nombre de choses, pour vivre en tant qu'homme de Jésus. Et puis, une mission que nous devons accomplir, qu'est-ce que c'est? C'est lutter contre ce monde, lutter contre l'ennemi. Et puis, il nous a donné beaucoup de charges, donc il faut que nous les accomplissions. Donc, il faut bien remplir nos obligations. Dans ce cas-là, nous pourrons être récompensés dans les cieux, en Chine. En Chine, si vous visitez une région en Chine, dans cette région, il y a un grand parc. Sawon, parc de Sawon. À chaque fois qu'on boit de l'eau, on doit rendre grâce à celui qui offre cette eau. Quel bon état d'âme, c'est bien en fait, et de remercier pour celui qui nous offre de bonnes choses. Donc on peut penser à Dieu. N'est-ce pas? Il faut que nous soyons toujours reconnaissants pour tout ce que Dieu nous a accordé. Jésus s'est sacrifié pour l'Évangile. Il faut que nous connaissions son sacrifice et puis il faut que nous ayons tous les effets de ce sacrifice. Il faut aussi participer à son amour, à sa grâce. Pour cela, il faut faire de même comme Jésus. Il faut être capable d'aimer Jésus jusqu'à la mort et d'aimer nos prochains. Entre les membres de l'Église, son arc, il faut y avoir amour profond et une grande joie. Chacun de nous doit assumer sa responsabilité en aimant les autres, parce qu'il faut que la volonté de Dieu soit bien accomplie. Et puis, il faut que la volonté de Dieu soit bien révélée dans cette Église. Il faut que la volonté de Dieu soit accomplie à 100%. Et pour cela, il faut créer une ambiance ou un environnement qui le permet. C'est notre responsabilité, c'est notre obligation. Par exemple, si vous amenez des nouveaux venus à l'église, et lorsque ces nouveaux venus s'installent dans notre église, et lorsque ils pensent, il ne faut pas qu'ils soient laissés de côté. On pense que voilà, ils ont reçu le salut comme nous, donc on peut les laisser tranquilles, mais ce n'est pas bien du tout. Il faut s'intéresser à eux, il faut les enseigner en détail ce qu'ils doivent faire. Et il faut qu'ils soient capables de manger la parole de Dieu et de vivre selon la parole. Pour cela, il faut les aider avec joie jusqu'au dernier jour. Notre église, doit être une église idéale où la volonté de Dieu s'accomplit et s'est accomplie et va s'accomplir. Si quelqu'un vient à notre église, par exemple, même si c'est une personne difficile à traiter, il faut qu'elle s'installe aussi dans notre église. Pour cela, il faut l'aider. Même si c'est une personne qui a été très brutale ou un peu dure, elle peut être changée. Donc, il faut l'aider. Il faut mobiliser nos forces pour qu'une bonne ambiance soit créée dans notre église. C'est important de créer une bonne ambiance, un environnement favorable pour que les devenus puissent bien s'installer. Pour cela, il faut servir les autres, il faut servir. Ça doit être notre attitude. Il faut assumer notre responsabilité, il faut remplir nos obligations, il ne faut pas demander aux autres de le faire. C'est nous-mêmes qui devons accomplir nos charges, nos obligations. Il faut vivre pour les autres, il faut les servir avec un sens de responsabilité et il faut le faire avec gratitude. C'est ça la spiritualité, c'est ça la nature de l'homme de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ que vous deveniez homme de Jésus-Christ. Vous êtes homme de Jésus, mais vous devez en manifester le témoignage. Pour cela, il faut que la volonté de Dieu soit concrétisée en vous. Et puis, il faut que vous soyez habitué à dire merci beaucoup ou je vous remercie. Si quelqu'un vous sert, il faut que vous disiez merci parce que c'est important, c'est une étiquette à respecter. Dans notre église, puisque je suis pasteur, tout le monde me traite comme de prioritaire. Par exemple, ils ouvrent la porte pour moi, par exemple, mais ils ne devancent pas hein, parce que je suis pasteur. Mais il y a certains fidèles qui n'ont pas d'étiquette. Par exemple, si quelqu'un nous demande, il y a quelqu'un qui nous devance, c'est lui qui ouvre la porte. Donc, il ouvre la porte et à ce moment-là, lorsque je le suis, je passe à la personne qui ouvre la porte. Et on peut l'aider, parce que moi, aussi, grâce à lui, je n'ai pas besoin d'ouvrir la porte, parce que c'est celui qui me demande qui a ouvert la porte. Mais moi, en fait, je ne fais aucun effort pour l'ouverture de cette porte. Je passe tout simplement sans le remercier, ça, ce n'est pas une bonne manière. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont assez impolies. Mais dans le monde occidental, c'est un peu différent. Donc, il faut que nous soyons changés. À l'étranger, j'étais très étonnée, en fait, parce que on est habitué à dire merci. En fait, à l'étranger, j'étais très heureux parce que, si, par exemple, dans l'ascenseur, si j'appuie un bouton pour attendre quelqu'un, par exemple, ce dernier nous remercie et il exprime sa gratitude. C'est ce qui se passe à l'étranger. Donc, si je fais bonne chose, j'étais très heureux parce que les gens me remercient. Il y a une récompense immédiate. Mais en Corée, c'est un peu différent. On ne s'habitue pas à dire merci. Donc, difficile d'appliquer bonne manière. Donc, il faut que nous soyons habitués à dire merci, je vous remercie, etc., etc. Il faut réagir de manière positive. Je dis merci. À ce moment-là, une bonne ambiance pourra se créer. Nous sommes tous hommes de Jésus et nous allons vers la vie éternelle. Nous débarrassons de toutes sortes de difficultés, de toutes sortes de malheurs dans ce monde. Et même s'il y a des choses qui nous embêtent, mais il y a la véritable paix qui règne en nous. Et nous sommes hommes de Jésus, c'est pourquoi nous pouvons tout vaincre, nous pouvons ne pas être désespérés. Nous sommes hommes de Jésus-Christ, nous sommes hommes de Jésus. Et Jésus vient vers nous, il nous élève, n'est-ce pas? Donc nous sommes hommes de Jésus. En tant qu'homme de Jésus, il faut avoir une fierté et il faut se conforter d'une manière convenable. Il faut porter les fruits de la vie éternelle. Pour cela, il faut vivre pour les âmes et mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Et il faut que notre Église soit idéale. Pour cela, il faut créer une bonne ambiance qui permet aux nouveaux venus de mener la vie de la foi facilement. J'espère que vous disiez amen à voix haute pour que je sois encouragé. Merci. Nous allons prier à Dieu. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide. Nous sommes hommes de Jésus. Donc, il faut que Dieu nous donne une plus grande foi pour que nous ayons la joie. Et il faut avoir la puissance du sang de la chair de Jésus. Et il faut que son amour et sa grâce prennent l'effet en nous et nous soutiennent. Nous allons donc demander l'aide à Dieu, appelant le nom de Jésus trois fois.